France Musique.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Bonsoir Rodolphe, bonsoir à tous. C'est parti pour une heure d'actualité du disque et on prend la direction de l'Australie. Nous sommes en Australie avec un disque d'œuvres de compositeurs australiens défendu par des interprètes tout aussi australiens, Michael Duke et David Howie, des passionnés par la musique de leur temps et par la musique de leur pays qu'on ne connaît finalement pas trop en France.
Non,
je vais
c'est
vous
vrai.
Demander, est-ce que vous pouvez me citer un compositeur australien?
Skrull Crops.
Ah oui,
vous voyez,
vrai, oui, mais vous l'avez. Vous...
Je l'ai fait avec un accent non australien.
Ah oui, c'est ça, exactement. Alors là, c'était la pièce de Matthew Inson, une chanson de nuit. Et donc, on découvre ce soir une série de pièces aux esthétiques différentes. Parfois, elles ont été écrites pour le duo, ou alors ce sont aussi des transcriptions de pièces qui ont été écrites d'abord pour le hautbois. C'est le cas de l'œuvre qu'on va entendre de Ross Edwards, Bird Spirit Dreaming, l'esprit de l'oiseau rêveur. Ross Edwards est un compositeur né en 43, très engagé dans le combat écologique. Il essaye, dit-il, de reconnecter la musique aux forces élémentaires et de la lier au rituel de la danse. Il puise souvent son inspiration dans les racines de la culture australienne. Il s'inspire du bruit des insectes, du chant des oiseaux, comme c'est le cas ici, avec donc cette œuvre qui imite le chant des volatiles. Ici, c'est l'oiseau sauvage. Bird Spirit Dreaming, la musique de Ross Edwards par Michael Duke et David Howie. Je n'en ai pas fini avec les 10 de saxophone.
Ah bah voilà, une bonne nouvelle.
Je sais que c'est votre instrument, vos instruments
c'est
préférés.
C'est l'un de mes instruments.
Oui, voilà, que vous avez joué en plus.
Exactement.
Alors, autre programme avec non pas un mais 4 saxophones, le 10 du quatuor Zaïre. Un programme 100% français avec Poulain, Cravel, Boulanger et Claude Debussy. Et puis deux auteurs d'aujourd'hui, Gratian Finzi et Fabien Waxman. Le quatuor Zaïre leur a demandé de poser leur regard sur la petite suite de Claude Debussy. Et donc, ils ont livré leur suite. C'est le cas donc de Gratian Finzi qui a écrit une suite en 4 mouvements. On va écouter le dernier, Chachirata. C'est une petite conversation entre amis, nous dit la compositrice. On se raconte des petits événements, on se coupe la parole, on hausse le ton, on change de sujet et on s'anime beaucoup vers la fin en un unisson final sur la note Do qui va clore la discussion. Petite suite, c'est la musique de Gratian Finzi en miroir de celle de Claude Debussy. Et c'est donc une commande du quatuor Zaïre dont on a déjà parlé dans notre émission cette semaine puisqu'on a écouté le reste du programme 100% français.
France Musique en piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Voilà un projet disponible qu'en vinyle ou sur les plateformes internet. Il s'agit d'un album d'Alexander Dubitch. Alors, est-ce que vous voyez qui il est, Émilie ?
Non.
Eh bien, vous le connaissez sans le savoir, puisque c'est le pianiste attitré de Jakob Józef Orliński.
Ah oui, effectivement.
Ils jouent souvent ensemble, improvisateur, pianiste, compositeur de musique de film. C'est un musicien important en Pologne. Son univers, vous l'avez entendu, est à mi-chemin entre la pop, la variété et la musique de création. Et c'est ici son sixième album qui sort, qui s'appelle Magnolia. Vous aimez cette plante ?
Oui.
Cet arbre ?
Et j'aime bien la chanson de Claude François.
Aussi, oui. Aussi. Alors la référence, je crois, est plutôt à l'arbre ici et à ses fleurs.
Dommage.
Qu'à Claude François. J'ai cette fois décidé de combiner les rôles de compositeur, pianiste et producteur de la grande majorité de ma musique. À l'exception de la partie de piano à queue, j'ai tout enregistré chez moi, dans mon studio. J'ai invité des musiciens extraordinaires, lesquels sont devenus des amis. Le contre-ténor Jakob Józef Orliński, qui apparaît sur plusieurs plages de ce disque, le voici.
Thank you.
Les morceaux de Magnolia sont cinématographiques et l'album entier a une structure de bande sonore, nous dit le compositeur Alexander Debitch. Vous vous êtes peut-être fait votre film
absolument,
dans
en tout
la
cas.
Tête en écoutant cette musique.
Beaucoup d'images qui viennent dans la
tête. C'est mieux pour un film.
Ouais, c'est bien. Hein.
C'était quoi comme type d'image?
Alors écoutez, j'étais vraiment dans les Magnolia.
Ah oui, tout en haut, sur les cimes.
Couché sur les cimes du Magnolia.
Ça devait être beau. C'était un Magnolia blanc ou rose?
Ah, c'était un Magnolia blanc, hein, toujours.
Ah, d'accord.
France Musique, en piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Faire résonner le monde entier, c'est la devise du compositeur Thierry Pécou qui, depuis toujours, va à la rencontre des cultures du monde entier, des cultures de tradition ancestrale. Elles l'inspirent, elles irriguent une musique métissée, pleine de couleurs, très vivante. Il a écrit des musiques inspirées des cultures des Indiens navarros, des cultures anciennes d'Asie aussi. Et aujourd'hui, il s'est penché sur les musiques indiennes. Alors on nous dit que tout a commencé en 2017, lorsqu'il a été invité par l'Alliance française à New Delhi. Et il a tout de suite été fasciné par la riche tradition des musiques du pays. Et donc, dans sa tête est née l'idée d'une pièce qui réunirait des musiciens français et indiens. Et c'est ainsi qu'est née Sangata, une suite à la fois indienne et occidentale, nous dit-on dans le livret, profonde et légère, méditative et festive, personnelle et collective, écrite et non écrite. Sangata se compose de trois longs mouvements qui portent le titre de Grande Ville Indienne. Et puis ensuite, il y a des pièces, des mantras, grandes respirations méditatives. Il y a pour les musiciens occidentaux, Anne Cartel, Karer Geratsen et Thierry Pécou au clavier, et les musiciens indiens, Ragini Shankar au violon, Rishabh Prasanna à la flûte bansuri et Aman Ali Khan au tabla. Très belle ambiance qui se dégage de ce disque, c'est notre disque du soir. Vous l'avez peut-être entendu chez Gabriel Oliveira Guillon
vendredi dernier
dans la matinale. Alors voici comment tout débute à Delhi.
Dina. Thank you.
C'est la pièce qui ouvre cette suite Sangata de Thierry Pécou avec l'ensemble Variance, donc qui est composé par des musiciens français et des musiciens indiens. Et c'est notre disque du soir à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr.
Et moi aussi, j'ai un disque passionnant sur une histoire de la violence et du meurtre en musique. Alors, est-ce que vous voyez quel compositeur on pourrait y trouver dans ce disque ?
Mais d'aujourd'hui ?
Non.
Ah non, alors Gesualdo ?
Et voilà, Gesualdo, on écoutera ce disque dans notre En Piste quotidien prochainement. Mais la partie centrale est constituée des chants pour sept voix de femmes avec instruments de percussion de Claude Vivier, compositeur québécois né à Montréal en 48, mort à Paris en 83, assassiné par un amant rencontré quelques semaines auparavant. Alors vous savez, vous connaissez un peu la vie de Claude Vivier,
né de
parents inconnus, confié à des familles d'accueil où il a été violenté, abusé, confié à 13 ans au frère Mariste où il va découvrir la musique. Enfin bref, un personnage incroyable et une musique aussi incroyable. Et le texte de ses chants est un mélange de français, d'allemand, de latin et d'une langue imaginaire faite d'onomatopées, avec cette obsession de la mort dans cette partition. Une partition très expressive, très bien chanté ici par la Schola Heidelberg. Et donc on réécoutera ce disque. Il y a Gesualdo, il y a d'autres compositeurs, on l'écoutera dans notre En Piste quotidien. Mais le seul compositeur, on va dire, qui appartient au XXe siècle et qui pourrait être encore vivant, hein, 1948, c'est Claude Vivier.
wollte was sagen, ich weiß aber nicht.
Chant pour sept voix de femmes et instruments à percussion. C'est la musique de Claude Vivier et c'est la Schola Heidelberg qui enregistre ce disque. Et c'est le journal de la création avec Laurent Villarem. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir Émilie. Est-ce que vous êtes déjà allé à Monaco?
Mais non.
Ah
en plus, vraiment, à Nice, ouais, mais pas fois. À Monaco.
Alors j'avoue, moi j'aime bien. J'aime d'autant plus
ah,
Monaco.
Ouais. Ouais. C'est marrant, je vous imagine bien là-bas.
Ah, oui,
là-bas. C'est votre style.
Absolument. Mais j'aime d'autant plus Monaco que j'y étais la semaine dernière pour assister à un week-end de concert du Printemps des Arts. Depuis 2021, le Printemps des Arts est dirigé par Bruno Mantovani. Et la particularité de cette édition 2024, qui se tient jusqu'au 7 avril, est de s'intéresser à la thématique du chant de la terre de Gustav Mahler, et aussi de faire des concerts monographiques de compositeurs, avec une œuvre de jeunesse, une du milieu et une de la toute fin de la vie du compositeur. Alors je vous avoue, quand j'ai dû aller voir trois trios de Beethoven, magnifiquement joués par Jean-Frédéric Neuburger, Sayaka Shoji et Henri de Marquette, j'ai vu un peu flou. Mais c'est un peu comme le marathon, on a des difficultés au milieu, mais à la fin on est très heureux d'être allé jusqu'au bout et on est plein de sérotonine. Bon. Le Printemps des Arts, cette année, ce sont surtout deux grandes créations lyriques. La seconde a lieu ce vendredi par l'ensemble TM+, on en parle à la fin du journal, mais la première a eu lieu samedi dernier, c'est l'opéra L'étoffe inépuisable du rêve de Sophie Lacaze. On a profité pour faire un petit reportage. Bruno Mantovani, il y a deux grandes créations au Printemps des Arts cette année. La première, c'est L'étoffe inépuisable du rêve de Sophie Lacaze. C'est une pièce étonnante.
Oui, on est parti en fait d'un livret écrit par Alain Carré qui était totalement inscrit dans la thématique du festival. Et c'est un peu une coïncidence parce qu'à l'origine, il s'agissait d'une commande qui était plutôt faite par l'ensemble orchestral contemporain et par l'opéra de Clermont-Ferrand. Mais il se trouve que le livret était tellement proche des préoccupations du chant de la terre, c'est-à-dire du rapport de l'homme au monde, que je l'ai programmé avant même de voir la partition, avant même qu'elle existe. Et donc, comme toutes les commandes, on a des surprises. Et la surprise d'avoir d'abord ce grand mélange de textes parlés, de textes chantés, de didgeridoo, instruments aborigènes, et d'instruments, occidentaux, fait qu'en effet, c'est un objet musical non identifié.
Sophie Lacaze, pour ce nouvel opéra, vous vous inspirez de légendes aborigènes.
Les légendes aborigènes font partie de ce qu'on appelle le temps du rêve, le dream time. Donc c'est un rêve à double niveau en fait, le rêve d'un rêve. Ça c'est le premier acte. Le deuxième acte, le dormeur se réveille. Et alors on ne sait pas, mais ça c'est à chacun d'interpréter un peu comme il veut, parce que c'est vraiment quelque chose de très ouvert. Et avec le librettiste, on a décidé de rester un peu flou. C'est soit un rêve éveillé, soit la prise de conscience de toute façon d'un monde qui est en destruction.
Dans l'étoffe inépuisable du rêve, il y a l'ensemble orchestral contemporain, mais également un instrument inattendu, c'est le didgeridoo.
Absolument. Le didgeridoo est un des instruments traditionnels des aborigènes de l'Australie du Nord. Et c'est un instrument avec lequel je travaille depuis très longtemps. Je trouve qu'il a une sonorité fabuleuse. Et je connais un instrumentiste, un joueur du didgeridoo que je trouve excellent. C'est Sylvestre Soleil. Donc je lui ai demandé s'il était d'accord pour jouer cette partie de didgeridoo dans le premier acte, puisque dans le premier acte, nous sommes dans une légende aborigène. Dans le deuxième acte, on est dans le monde réel ou dans un rêve, mais qui n'est plus aborigène là. Donc il n'y a plus de didgeridoo.
Sylvestre Soleil, c'est rare d'entendre du didgeridoo à l'opéra.
Oui, ben c'est extraordinaire. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'on utilise le didgeridoo à l'opéra. Donc pour moi, voilà, c'est une belle aventure et je suis très content de pouvoir y participer. Le fait de faire connaître cet instrument qui est utilisé par les aborigènes depuis 60 000 ans ou plus, on ne sait pas encore. Et donc le fait qu'il puisse entrer à l'opéra, ben, je trouve ça extraordinaire et voilà.
Xavier de Lignerolles, Romain Daillé et Els Janssen Franz Muster, vous êtes avec le récitant Alain Carré les trois solistes lyriques. Quelle est la particularité vocale de l'étoffe inépuisable du rêve ?
Ben, c'est un usage vocal très, très inédit.
Romain Daillé.
Pour moi, par exemple, qui fait beaucoup de musique contemporaine, je veux dire que ces longues nappes tenues sur des paroles assez aléatoires, puisqu'on peut choisir en fait, les phonèmes etc., sur lesquels on chante, ça c'est tout à fait novateur et nouveau pour moi.
Xavier de Lignerolles.
La particularité de l'instrumentarium avec le didgeridoo, avec voilà, un mélange de percussions et différents sons qu'on entend pas souvent dans un opéra contemporain.
Els Janssen Van Münster.
Il me semble que les voix sont utilisées comme des instruments. Et donc ça rejoint les solistes de l'ensemble.
Sophie Lacasse, j'ai une dernière question. Est-ce que l'opéra est le lieu du rêve ?
Peut-être, c'est effectivement, ça peut être un rêve, hein, ou ça peut nous amener à rêver en tout cas. C'est quelque chose d'un peu magique, enfin c'est comme ça que moi je vois les opéras, et c'est cette espèce de magie, cette espèce de poésie et ce rêve que j'ai voulu transmettre.
L'étoffe inépuisable du rêve de Sophie Lacasse vient d'être créée au Printemps des Arts de Monaco. L'ouvrage sera repris la saison prochaine à l'Opéra de Clermont et à Ars Musica de Bruxelles. Mais ce vendredi, il y a une deuxième création à Monaco. C'est une nouvelle version du Chant de la Terre. Compositeur et directeur musical de l'ensemble TM+, Laurent Cugnot s'inspire du chef-d'œuvre de Gustave Mahler sur les textes utilisés par le compositeur. Bruno Mantovani, le directeur du Printemps des Arts, nous explique la genèse de cette création.
On avait ce fil rouge au festival du Chant de la Terre, donc de ce rapport au monde. Il se trouve qu'en principauté vit la petite fille de Gustave Mahler, qui a une amie très proche depuis une vingtaine d'années et qui suit le festival de façon très fidèle. Et j'avais l'envie de commander un nouveau Chant de la Terre à un compositeur chef d'orchestre en l'occurrence, qui en plus a une sensibilité très forte à cette musique très expressive et avec musique de beau son. Laurent Cugnot s'est imposé à moi. Laurent est un immense musicien. Il fut mon professeur au Conservatoire de Paris. Je garde toujours d'ailleurs des souvenirs très émus quand je le vois. C'est toujours mon prof. Ça restera toujours mon prof dans ma vie. Et il a accepté de relever le défi d'écrire ce chant de la terre version 2024 sur les textes qui étaient utilisés par Mahler précédemment. Pour moi, il s'imposait. Il y avait une évidence.
On appelle tout de suite Laurent Cugnot. Laurent Cugnot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez d'entendre les mots de Bruno Mantovani. Qu'est-ce que cela fait d'écrire une pièce pour votre élève ?
Mais en fait, lui, s'il me voit encore comme un professeur, moi, ça fait vraiment longtemps que je ne le vois plus comme un élève. Mais c'est un compositeur, aussi chef d'orchestre, pour lequel j'ai une immense estime. Et je pense que depuis bien longtemps maintenant, on est dans un rapport de réciprocité tous les deux. Donc, je suis heureux d'entendre ces mots et de savoir que voilà ce que j'ai pu représenter pour lui, mais lui aussi m'a énormément apporté dans son travail de compositeur.
Laurent Cugnot, comment vous êtes-vous affronté au monument malérien ?
Tout l'enjeu, c'est à la fois de retrouver l'essence du projet malérien et en même temps de s'en écarter. Et pour revenir aux mots de Bruno précédent, l'enjeu, c'est évidemment, pour un compositeur contemporain nourri des avant-gardes, c'est d'arriver à retrouver toutes les couleurs expressives possibles, comme Mahler en son temps a pu les explorer, mais évidemment dans la singularité du langage d'aujourd'hui. Donc l'enjeu, il est celui-là, à la fois d'être proche et lointain du modèle, trouver sa propre singularité et trouver des ressources expressives très très variées qui correspondent au texte utilisé. La différence avec le modèle, c'est que moi j'ai utilisé en plus deux textes sublimes de Rainer Maria Rilke, qui ont été en fait une façon de rentrer dans l'univers malérien à travers un univers poétique qui m'est beaucoup plus familier. Voilà, donc ça a été ça l'enjeu, et puis il y a l'enjeu bien sûr de la grande forme, puisque c'est une heure de musique, et dans cette diversité justement, il faut savoir la pousser au maximum pour pouvoir faire vivre à l'auditeur une dramaturgie puissante qui parcourt les 60 minutes de musique.
Merci beaucoup Laurent Cugnot. Je rappelle la création de votre Chant de la Terre par l'ensemble TM+, ce vendredi au Printemps des Arts de Monaco. Le spectacle sera repris le 4 avril à l'Opéra de Massy. Merci encore.
Merci à vous.
Émilie Rodolphe, ça vous dit qu'on termine par du Mahler ?
Ça dépend lequel.
Justement, le Chant de la Terre.
Voilà, c'est ça, c'est le Chant de la Terre, on veut bien.
Ok. À Monaco, Marie-Nicole Lemieux fait entendre le Chant de la Terre dans sa version pour grand orchestre, mais Lucille Richardot en a donné un arrangement pour ensemble avec Head Collectif.
Très belle version, je me souviens.
Alors, restons éternellement dans le printemps, si ça vous va. De la Terre et le thème du Printemps des Arts de Monaco.
Merci beaucoup Laurent Villarem. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal de la création. Et merci à Céline Parfenoff qui a réalisé cette émission avec Adeline Omello et Colline Redon.
À réécouter sur francemusique.fr.